Porque a ti, aquí, tú la
tengo. En Ituri, la asociación femenina Umoja y Wamama y Irumu s'insurge contre la libération par les parquets de grande instance de Bounia d'un homme accusé de plusieurs viols au chef-lieu du territoire d'Irumu. À cet effet, une marche de protestation a été organisée dernièrement dans cette entité à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bounia, cet homme est un malade mental. Il revient à l'administrateur du territoire de prendre des mesures pour son isolement. A-t-il affirmé? Que prévoit alors la loi congolaise devant un tel cas? Nous allons recevoir dans quelques instants Noël Kilomba, juge de tribunal de grande instance de Njili et écrivain en droit. Mais d'abord, on va faire le point avec Sadala, qui est en ligne, Sadala Chabani, qui est en ligne avec nous. On va le récupérer donc dans quelques instants, mais d'abord, on le signale que nos amis qui sont à Maluku sont bel et bien arrivés. Nous allons peut-être recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, on va nous allons nous rendre à l'IEM, où vous avez tous suivi à la télé l'opération démolition des maisons du site IEM à Kinshasa. Alors, nous avons en ligne notre invité, Christophe Obita Chimoy, représentant du comité de suivi du dossier des familles de victimes. Monsieur Christophe, bonjour.
C'est un drame.
Mais voilà, alors, monsieur Christophe, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, moi je suis en ligne. Bonjour, Katé.
Alors, on peut dire aujourd'hui, les carottes sont cuites. Ça appartient au passé, toutes les maisons qui ont été construites sur le site IEM.
Oui, c'est la désolation que tout le monde constate, effectivement, malgré tout le plaidoyer avant cela, on a décidé de détruire sans ménagement, sans pitié, nos maisons, que nous habitions avec nos familles, nos enfants, tout ça, tout le monde se retrouve dehors.
Oui, mais selon nos sources, disons, il y avait encore les pourparlers entre le comité de suivi et le gouvernement à propos de cette question, autour de cette question. Mais comment on en est arrivé là? Est-ce que vous avez été préavisé?
Nous n'avons jamais été préavisés, même pour parler entre notre syndic, le gouvernement n'a jamais eu lieu, parce que le gouvernement n'a jamais ouvert un espace de dialogue avec notre syndic. Nous avons toujours réclamé, nous avons pour faire entendre. On ne demandait pas autre chose que la loi de la République soit respectée, mais nous n'avons pas eu une oreille attentive. La commission qui s'est occupée du travail a fait ça à vase clos et a pris cette décision telle que je pense être aujourd'hui.
Alors, du fait que, disons, le gouvernement a fait son oreille et que vous n'avez pas été, la procédure donc de démolition n'a pas été suivie normalement, correctement, parce que vous n'avez pas été préavisé, est-ce que vous comptez traiter un procès contre la République?
Bon, nous pensons, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore faire, parce qu'on a tout fait pour que le gouvernement quand même prête oreille. Il s'agit des droits des citoyens, et c'est le gouvernement qui doit nous protéger, c'est le gouvernement qui doit faire respecter la loi, lui-même doit commencer par respecter la loi, parce que nous étions dans un processus d'expansion qui est légal, que nous avions accès. Nous demandions seulement que la loi soit respectée, notamment que nos maisons soient évaluées correctement et que, comme la Constitution le prévoit, l'indemnité au préalable avant de juger.
Oui, mais selon vous.
Ça n'a pas été le cas. Par la suite, nous allons à plaider notre cas auprès des instances qui peuvent nous faire.
Ben alors, ben, selon nos sources, même la procédure d'expropriation n'a pas été exécutée correctement. Sur les 350 maisons, il n'y en a eu que 25 qui ont bénéficié de cette expropriation, de cette indemnité.
Mais bien sûr, c'est vrai que je suis en train de dire qu'il y a là, il y a une violation délibérée de la loi par ceux-là même qui doivent faire respecter la loi de la République. Parce que la loi prévoit que lorsqu'il y a expropriation, il y a un arrêté officiel qui a décrété en fait l'expropriation. L'étape qui devait suivre, c'était une évaluation contradictoire pour qu'on détermine la valeur de nos biens. La troisième étape, ça devrait être le paiement effectif de ces indemnités fixées déjà. Et puis après, on devrait avoir un délai suffisant pour que nous prenions les dispositions des lieux. Tout ça n'a pas été respecté. Lorsqu'on parle d'indemnités, l'organisation d'une vingtaine de personnes. Tout cela s'est fait toujours en violation de la loi, parce que on a appelé 24 personnes sur plus de 300 personnes qui étaient sur le site. Alors, on leur a imposé des forfaits. Par exemple, quelqu'un dont la maison valait 100 000 $, on lui a donné moins de 10 000 $, ainsi de suite. Donc, ce sont des montants fixés unilatéralement, payé, imposé pratiquement aux gens, et la plupart ont pris, parce qu'ils ne savaient plus à quel sens ils voulaient, mais il y a d'autres qui n'ont pas pris jusqu'au maintenant, et à part cela, ils sont venus, ils ont des trucs vraiment sans ménagement, sans sommation, sans même un délai pour que les gens puissent venir prendre une solution déménager. Vous imaginez des bidons d'hygiène qui vous trouvent dans vos maisons, vous êtes endormis avec vos enfants. Des enfants de 2 ans, ils voient comment les bulldozers viennent violenter votre maison, et tout le monde en train de crier cette indépendante. Je pense que c'est inqualifiable, c'est quelque chose que personne ne souhaiterait vivre.
Alors, si vous voulez nous faire une idée, aucune partie n'a été épargnée, parce que selon les dernières informations, la partie sur le 24 novembre, partant de centre Banné jusqu'au niveau de l'école Nakinga, cette partie allait être épargnée. Est-ce que c'est fait le cas?
Nous ne savons pas le dire, parce que c'est pas nous qui commandons l'opération. Ce que je peux vous dire, ce qui a été fait, c'est que la parcelle de Kimbangui, c'est jusqu'à la parcelle de Kibouila, toute cette partie-là est...
Donc même la partie, la concession Kibouila a été détruite?
Non, je dis qu'ils se sont arrêtés sur le mur de la concession Kimbangui. Arrêter d'expropriation par les biens du côté IM aussi, parce que là c'est le côté correct qui vient d'être démoli, mais il y a le côté IM et Fonamès qui n'est pas encore touché, mais ça se trouve bel et bien sur l'arrêté. Je pense qu'ils sont déterminés à découdre avec tout le monde, hein. Et ça serait illusoire de croire qu'ils vont subir un traitement autre, quoi.
Mais voilà, alors nous vous laissons suivre ces sons, comme ça on va commenter juste après.
Ok, je suis, je garde l'écoute.
C'est un drame ce que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment un drame. Nous sommes en train de vivre pratiquement une escroquerie de l'État. Une escroquerie. Et en plus, doublée de terrorisme, même nous devons dire. Parce qu'hier au matin, nous qui n'étions même pas informés, nous avons vu venir des bulldozers. La maison que vous avez devant vous, là, qui n'est plus maison, vous voyez, c'est tout un petit gravat. Je n'ai pas été indemnisé. Je n'ai pas eu un seul franc qui nous a dû faire un congolais. Mais voyez ce qu'on a fait de ma maison. Et c'est la même chose pour les voisins. Donc c'est vraiment un drame. Est-ce que notre gouvernement se demande maintenant qu'il a fait ça, où sont les habitants? Est-ce qu'il se demande où sont nos enfants? Est-ce qu'il se demande que devient la scolarité de nos enfants? Non. Non.
Voilà, c'est vraiment émotionnel. Comment réagissez-vous par rapport au propos de ce monsieur?
Bon, en fait, je pense que c'est sans commentaire, parce que ce que nous venons de vivre, vraiment, c'est grave. C'est très grave. Je pense que nous nous y attendions le moins. Nous ne pensions pas que le gouvernement actuel, issu des élections, au moment où on parlait d'un état de droit, au moment où on parlait de renouveau dans ce pays, que des choses comme ça puissent encore se faire dans ce pays. Vraiment, nous avons l'impression que il y a un recul, c'est une descente aux enfers, parce que ce que nous venons de vivre vraiment remonte de très loin dans ce pays. On ne pouvait pas imaginer que ça se passe comme ça. Je pense que si ça continue, ça se généralise comme ça, c'est tout le monde qui est en danger. Parce que comment nous sommes en train de reconstruire un pays? Les investisseurs étrangers doivent venir investir dans notre pays. Les citoyens eux-mêmes ne sont pas sécurisés. On est en train de faire ça aux Congolais. Aux étrangers, on fera la même chose. Nous-mêmes, ici, nous sommes déjà attirés. Prendre le courage de construire un pays si on sait qu'on peut subir de sort de ces gens. Alors, appel à cet investisseur qui doit déverser son argent dans ce pays et qui sait qu'il n'y a personne qui est protégé par la loi. Nous avons eu les déclarations d'une autorité importante de ce pays, dont j'étais le nom, qui a déclaré, lorsque nous étions en pourparlers avec elle, que non, c'est de nous écrire vos lettres avec vos constitutions, des lois, parce que nous n'avons qu'à faire avec ces histoires. Il n'y a personne qui respecte la constitution et la loi dans ce pays, alors allez-vous-en avec vos constitutions et vos lois. Alors ça vient d'une autorité en fonction dans ce pays, vous vous rendez compte. Alors qu'est-ce que nous devons faire en tant que... Qu'est-ce que nous pouvons devenir? Alors à ce moment-là, moi je pense qu'on est en train de prendre fausse route, parce que dans ces conditions-là, ça devient comme une jungle à ce moment-là. Et ça devient difficile de parler d'un État ou même d'une reconstruction. C'est vraiment désolant.
Donc on peut dire que le feuilleton s'arrête là, c'est fini, donc ça appartient au passé.
Bon, ça ne peut jamais appartenir au passé, parce que ça reste gravé dans nos mémoires, dans les mémoires de nos enfants qui ont une année, qui ont deux ans, nos vieilles mamans qui vont mourir avec ces images-là demain. Ça ne pourra jamais se terminer. Et nous allons continuer à défendre nos droits tels qu'ils doivent être défendus, parce que l'autorité a même racheté pour défendre de vos jugements que vous avez là. Nous n'avons qu'à faire de vos jugements, nous marchons sur ces jugements. Il nous a parlé du cas de Temenatembe, il a dit, mais ces gens de Temenatembe, ils ont dit qu'ils ont gagné un procès, mais nous, personne, tant que je serai autorité, personne n'exécutera ces jugements. Alors, vous que même argent, nous obtenons même un jugement, personne, etc. Alors, vous voyez, finalement, où est-ce qu'on va?
Et voilà, alors, M. Christophe, pour clore cet entretien, je vous donne encore l'occasion de suivre encore un auditeur qui intervient en direct. Bonjour Blaise, vous êtes en ligne, Blaise?
Oui, je suis en ligne.
Vous nous appelez de Kinshasa ou d'ailleurs?
Oui, je vous appelle de Kinshasa, ma campagne. Oui.
Alors, quelle est votre préoccupation? Comment réagissez-vous par rapport à cette attitude du gouvernement?
Ma préoccupation, vraiment, je ne sais pas vraiment notre gouvernement. Vraiment, je ne sais pas, on parle où. Je ne sais pas vraiment quel problème. Je ne sais pas où est Olive Lensetou. Je ne sais pas où est Mouzito. C'est vraiment démontrer qu'il est capable vraiment. Parce que le pays en 21e siècle, les choses par l'image se passaient vraiment.
Oui.
J'ai passé là-bas. Les femmes et les enfants passaient la nuit dans la télé. C'est pas normal,
Oui, Monsieur Blaise, parce que normalement, il y a un projet de construction d'un grand hôpital moderne à cet endroit, oui. Et toutes ces familles ont été avisées qu'effectivement, ils allaient être dégrappés. Je crois que le temps, même le délai est largement dépassé. Bah, c'est que nous déplorons. Ils n'ont pas été préavisés pour cette action hier. Donc, c'est ça le drame. Mais au moins, ils ont été avisés avant.
Ok, merci. Maintenant, quelles sont de ces victimes,
Voilà, nous poserons la même question aux autorités très prochainement dans un autre débat. Merci Blaise d'être intervenu sur Okapi. À la prochaine.
Je vous en prie.
Et voilà, donc nous revenons à vous, M. Christophe. Vous avez suivi l'intervention. C'est pratiquement la même inquiétude dans le chef même de la population.
Oui, je pense que ça ne peut que vraiment émouvoir tout le monde. Nous passons, parce que vous venez de parler là, qu'on a une NDG qui a été expirée, ainsi de suite, on a dit ça tout de même, pas dire ça, au moment où nous avons bien dit qu'il n'y a jamais eu un délai, et même s'il doit y avoir des délais comme ça, il y a des formes légales que tout cela doit prendre. Jusqu'à là, nous n'avons été préavisés. Jusqu'à là, nous ne nous attendions pas à ce que nous puissions être brutalisés, parce que nous nous atteignons toujours à la maladie que nous devons être indemnisés correctement avant de quitter. Maintenant, un délai raisonnable. Mais ça n'a pas été fait. Donc, pas dire que non, les gens étaient avisés et qu'ils se sont entêtés et ils n'ont pas voulu quitter. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une contre-vérité. Et vous avez parlé d'autre chose, c'est qu'on va construire un hôpital dans les cas de cinq chantiers. Moi, je pense que tous les Congolais français sont d'accord avec le projet sanitaire de cinq chantiers. Mais tout cela doit se faire sur fond de tas de droits. parce que si son chantier doit signifier l'écrasement du peuple congolais, alors il y a une contradiction, un paradoxe fondamental, c'est que ce chantier sont là pour créer le bonheur du Congolais. Hein, dans ses droits et dans, sa, dans, dans son état physique, hein, c'est que nous vivons là, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec les cinq chantiers ou avec cet hôpital, parce que cet hôpital pouvait bien être construit sans qu'on puisse violer les droits des citoyens. Une personne qui s'oppose à la construction de l'hôpital ou à la réalisation des cinq chantiers, mais tout cela doit se faire dans la légalité et dans le respect des droits de l'homme et des citoyens. C'est tout ce que on a demandé, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que peut-être il doit y avoir des autorités qui ont mis un peu un excès de zèle. Et je continue à penser qu'il y a des autorités responsables qui gouvernent ce pays et qui peuvent toujours rectifier les tirs. Parce que si on continue sur cette lancée et si rien n'est réparé, en tout cas, je pense qu'on est sur une mauvaise pente pour l'avenir de ce pays.
Sokopao 1, Sokopao 2, Tembe na Tembe, maintenant c'est le tour des IM. Nous pensons que la question qui doit être posée à qui le prochain tour, et là ça relance les débats sur l'octroi des titres de propriété. Là encore, il faudrait que les affaires foncières puissent mettre un peu de sérieux et surtout
tout ça. Vous avez tout à fait raison, parce que là nous assistons à une série de démolition, mais il n'y a nulle part où on nous montre que l'État a construit des habitations où le peuple congolais sans abri peut aller s'abriter. Il n'y a encore rien, mais aujourd'hui vous pouvez faire la comptabilité macabre de tout ce qui est comme démolition. Alors il y a une contradiction terrible entre les programmes de reconstruction et les programmes de démolition.
Voilà, Monsieur Christophe.
Je pense que, concernant les titres, beaucoup de gens disent que nous étions installés là-bas magiquement, c'était un site à problème, j'ai suivi ça même sur certaines chaînes de télévision. C'est tout à fait faux, parce que ce débat a été même déjà dépassé. L'État est arrivé à signer un arrêté d'expropriation qui signifie que nous étions légalement établis, puisque
voilà, peut-être
le gouvernement lui-même qui a donné tous les papiers, et il devrait prendre ses responsabilités.
Monsieur Christophe, nous reviendrons peut-être sur cette question, la problématique de l'octroi de titres de propriété dans ce pays, parce que là, il n'y a pas 102, il n'y a pas 203, nous sommes déjà au quatrième cas de démolition. L'heure est arrivée pour qu'on se mette ensemble autour d'une même table pour voir un peu la problématique. Qu'est-ce qui pose problème au niveau de l'octroi des titres de propriété? On accorde aujourd'hui un titre et demain, on exproprie pas dans des conditions correctes. Merci d'être intervenu sur les ondes de Radio Capi et à très bientôt.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.